Bonjour Martine Wodi, bonjour à tous. Effectivement, ce rapport publié en juin dernier indique que 81% des recettes fiscales et douanières mobilisées sont absorbées par les salaires des fonctionnaires.
Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
Le magazine de l'économie.
Singa Tikonomi.
Le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre indique que les salaires des fonctionnaires ont absorbé environ 81% des recettes fiscales et douanières mobilisées au premier semestre 2026. Ce chiffre constitue un signal d'alerte majeur. Pour en parler, nous recevons comme invité Marius Nialis, économiste. Dans la rubrique Mode l'économie, Tida Sabo nous explique le terme politique budgétaire. Bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, suivons quelques nouvelles économiques de la semaine.
Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
Kwasinga Tikonomi.
La commission de la CEMAC a bouclé hier la rencontre sur l'appropriation du plan stratégique 2027-2030 et du dispositif du budget programme. Les réflexions ont permis de moderniser et rationaliser la gestion budgétaire en substituant à une logique de moyens et résultats ainsi que d'impact. Autre actualité économique, près de 7 Centrafricains sur 10 vivent aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. C'est ce que révèle le rapport annuel 2025 du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le document dresse un état des lieux de la situation socio-économique du pays et de l'accès des populations aux services sociaux de base. Selon ce rapport, la RCA occupe la 191e place sur 193e pays en matière de développement humain. L'étude menée sur la population de plus de 6,4 millions d'habitants révèle que seuls 8% des ménages ont accès à l'électricité et 36% à l'eau potable.
Le magazine de l'économie.
Kwasinga Tikonomi.
Le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre a été présenté en juin dernier par le ministère des Finances. Ce rapport indique que les salaires des fonctionnaires ont absorbé environ 81% des recettes fiscales et douanières mobilisées au premier semestre 2026. 68,41 milliards de francs CFA ont été consacrés aux rémunérations, soit 59,93% de l'enveloppe salariale annuelle de 114,15 milliards alors que seulement la moitié de l'exercice était écoulé. L'État centrafricain est-il en train de consommer une part croissante de ses ressources pour faire fonctionner l'appareil public au détriment de sa capacité à transformer l'économie? Suivons les analyses de Marius Nialis, économiste.
Payer les agents publics n'est pas en soi une mauvaise dépense. Un État qui enseigne, soigne, sécurise, administre et collecte correctement les impôts, prépare aussi l'avenir. Le problème commence lorsque la masse salariale augmente sans que le service public s'améliore réellement ou lorsqu'elle laisse trop peu de moyens pour investir dans l'avenir. C'est pour cela qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière le chiffre. Est-ce qu'on recrute selon les besoins? Est-ce que les agents sont là où ils sont utiles? Est-ce que certains fonctionnent, se chevauchent? Est-ce que certains services manquent de compétences essentielles? Est-ce que les agents ont des missions claires et sont responsabilisés sur les résultats? Dans l'esprit de la vision de la République centrafricaine que je développe notamment dans l'un de mes ouvrages qui aujourd'hui est en phase de recherche d'éditeur, le but n'est pas d'avoir un État moins cher à tout prix. Le vrai but est d'avoir un État plus capable, un État qui utilise mieux ses ressources humaines et qui transforme les dépenses publiques en vrais services et en vrais résultats durables.
Pour mieux analyser ce rapport et les conséquences sur l'investissement du pays, suivons l'intégralité de cet entretien avec Marius Nialis, économiste. Alors, monsieur Marius Sinalis, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre indique que les salaires des fonctionnaires ont absorbé environ 81% des recettes fiscales et douanières mobilisées au premier semestre 2026. Est-ce que pour vous, ce chiffre constitue un signal d'alerte majeur?
Tout d'abord, je peux dire oui. Oui, c'est un signal d'alerte important, mais il faut aussi remettre ce chiffre-là dans son contexte. Dans la CEMAC, la référence communautaire est de 35%. En principe, la masse salariale ne devait pas dépasser 35% des recettes fiscales. De ce point de vue, 81% est évidemment très élevé. Mais ce niveau n'est ni totalement nouveau pour la République centrafricaine, ni totalement isolé dans la sous-région. La RCA était déjà autour de 80% en 2023 et à 82,4% en 2024. Et en 2024, tous les pays de la CEMAC étaient au-dessus du seuil de 35%. Donc il faut dédramatiser sans banaliser plutôt. Donc voilà ce que je peux dire. Ce n'est pas une crise qui serait apparue soudainement en 2026, c'est plutôt la confirmation d'une fragilité budgétaire ancienne. Ensuite, le chiffre ne nous dit pas à lui seul que les fonctionnaires sont trop nombreux ou trop payés. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Est-ce que l'État collecte assez de recettes? Est-ce qu'on recrute selon les vrais besoins? Est-ce que les agents sont bien répartis? Est-ce que les compétences correspondent au poste? Donc le vrai sujet, à mon sens, est double. Élargir durablement les recettes de l'État et s'assurer que la masse salariale finance réellement une administration utile et capable.
Peut-on affirmer que ce chiffre signifie que les finances publiques centrafricaines sont déjà en situation de quasi-asphyxie ou serait-ce une interprétation excessive?
Je serais prudent avec le mot asphyxie. Ce chiffre à lui seul ne suffit pas pour dire que les finances publiques sont déjà asphyxiées. D'abord parce que la situation n'est pas née cette année. Les données communautaires montrent que la RCA avait déjà un ratio très élevé les années précédentes. Cela ne prend pas la situation normale ou souhaitable, mais cela montre qu'on est face à un problème structurel, pas un accident soudain. Ensuite, pour parler réellement d'asphyxie, il faudra regarder toute la situation financière de l'État. Vous avez parlé des recettes fiscales et douanières, mais il faut aussi regarder les autres recettes, les appuis budgétaires, la dette, les arriérés, la trésorerie et les dépenses effectivement payées par l'État. Ce qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que la marge de manœuvre de l'État est très réduite. Quand une grande partie des recettes propres sert déjà à payer rien que les salaires, il reste moins de moyens pour investir, entretenir les infrastructures ou faire face aux imprévus. Je parlerai donc d'une forte tension budgétaire, ancienne et sérieuse, plutôt que d'une asphyxie soudaine.
Parlons des investissements, on va en arriver. Mais l'on se pose aujourd'hui la question, pourquoi en est-on arrivé là?
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule cause. Tout d'abord, notre économie reste encore trop petite, trop informelle et pas assez transformée. Cela veut dire que l'État ne dispose pas d'une base fiscale très large. On peut améliorer les impôts et les douanes, bien sûr. Mais on ne peut pas durablement collecter beaucoup plus que ce que l'économie produit. Ensuite, il faut regarder comment la masse salariale s'est construite au fil du temps. Est-ce qu'on recrute toujours là où il y a un vrai besoin? Est-ce que certains postes et ou certaines fonctions se répètent? Est-ce que les agents sont répartis selon les priorités du pays? Est-ce qu'on a parfois trop de personnel à un endroit et pas assez ailleurs? Donc la question n'est pas simplement avons-nous trop ou pas assez de fonctionnaires. La vraie question est, avons-nous les bonnes personnes au bon poste avec les bonnes compétences? La réponse doit donc être double. Produire davantage de richesses dans le pays pour élargir les recettes de l'État et mieux organiser les emplois publics pour que chaque recrutement réponde à un besoin réel.
Monsieur Marius, fin juin, près de 60% de l'enveloppe annuelle consacrée au salaire avait déjà été consommée. Si cette tendance se poursuit, quel risque pèse sur l'exécution budgétaire au second semestre?
Ce qu'on peut dire, c'est que si cette tendance continue, sans correction ou sans recettes supplémentaires, il peut y avoir plusieurs risques. Tout d'abord, l'enveloppe prévue pour les salaires peut devenir insuffisante avant la fin de l'année. Ensuite, l'État peut être obligé de réduire ou de retarder d'autres dépenses pour continuer à payer les salaires. Et enfin,
Cela peut créer aussi des tensions de trésorerie très fortes sur l'État centrafricain. Mais il ne faut pas conclure trop vite que 60% à fin juin veut forcément dire 120% à fin décembre, puisque ça ne fonctionne pas exactement de cette manière-là. Il faut d'abord comprendre pourquoi autant a déjà été consommé. Est-ce qu'il y a eu des rappels, des régularisations, des recrutements, des promotions, des intégrations ou un nouveau calendrier particulier de paiement? Et ensuite seulement, il faut se poser une autre question. Si la masse salariale augmente, est-ce que c'est parce que l'État renforce réellement ses capacités ou est-ce que la dépense augmente sans amélioration équivalente de services publics?
Au cœur de ce sujet, il faut se poser la question sur l'investissement. Vous l'avez déjà évoqué ici. Quand les salaires prennent une part aussi importante des recettes intérieures, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'investissement public?
En tout cas, merci beaucoup pour cette question parce que je trouve que c'est là que le sujet devient vraiment, vraiment important. Quand une grande partie des recettes intérieures sert à payer les salaires, il reste moins d'argent pour construire des routes, développer l'électricité, améliorer la connectivité, entretenir les infrastructures ou financer d'autres investissements utiles. Mais il ne faut pas opposer automatiquement les salaires à l'investissement. Un ingénieur qui entretient une route, un enseignant qui forme les jeunes, un agent des impôts qui sécurise les recettes ou un soignant qui assure un service essentiel participent eux aussi à la capacité du pays. Le vrai problème apparaît quand la masse salariale devient si lourde qu'elle empêche l'État d'investir suffisamment ou quand elle ne finance pas les compétences dont le pays a réellement besoin. Un bon budget doit donc payer correctement les agents dont l'État a besoin tout en gardant assez de moyens pour préparer l'avenir.
Donc, autrement dit, peut-on être en train de préserver le fonctionnement de l'État au prix d'un affaiblissement de l'économie de demain?
C'est un risque, je l'avoue, c'est vraiment un risque. Mais il faut bien poser le problème. Payer les agents publics n'est pas en soi une mauvaise dépense. Un État qui enseigne, soigne, sécurise, administre et collecte correctement les impôts prépare aussi l'avenir. Le problème commence lorsque la masse salariale augmente sans que le service public s'améliore réellement ou lorsqu'elle laisse trop peu de moyens pour investir dans l'avenir. C'est pour cela qu'il faut regarder ce qu'il y a derrière le chiffre. Est-ce qu'on recrute selon les besoins? Est-ce que les agents sont là où ils sont utiles? Est-ce que certaines fonctions se chevauchent? Est-ce que certains services manquent de compétences essentielles? Est-ce que les agents ou des missions claires et sont responsabilisés sur les résultats? Dans l'esprit de la vision de la République centrafricaine que je développe notamment dans l'un de mes ouvrages qui aujourd'hui est en phase de recherche d'éditeur, le but n'est pas d'avoir un État moins cher à tout prix. Le vrai but est d'avoir un État plus capable, un État qui utilise mieux ses ressources humaines et qui transforme les dépenses publiques en vrais services et en vrais résultats durables.
Le débat est important, mais on est déjà vers la fin de cette émission. Monsieur Marius Signalis, Radio Ndekeluka, vous remercie.
Je vous remercie.
Il y a des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie centrafricaine.
Kwasinga Tikonomi.
Dans la rubrique mot de l'économie, Tida Sabo nous explique le terme politique budgétaire. Dans la rubrique mot de l'économie, cette semaine, on s'intéresse à la politique budgétaire d'un pays. Monsieur Tida Sabo, bonjour.
Bonjour, Martial.
C'est quoi la politique budgétaire d'un pays?
La politique budgétaire d'un pays est l'action par laquelle un gouvernement utilise son budget, ses recettes et ses dépenses pour influencer l'économie du pays.
Mais quels sont donc les objectifs recherchés par la politique budgétaire?
La politique budgétaire utilise le budget de l'État, comme je l'ai dit précédemment, les recettes publiques et les dépenses, pour influencer l'économie et atteindre surtout des objectifs précis que sont d'abord la régulation de la conjoncture, c'est-à-dire la stabilisation macroéconomique, en soutenant l'activité en temps de crise, c'est-à-dire en relançant l'économie par la hausse des dépenses ou la baisse pour stimuler la demande, et en freinant l'inflation en période de surchauffe par la réduction des dépenses publiques ou l'augmentation des impôts et taxes pour limiter la surchauffe et stabiliser les prix, c'est-à-dire lutter contre l'inflation. Puis le deuxième objectif est la recherche du plein emploi, c'est-à-dire combattre le chômage en stimulant la production et l'embauche via la commande publique et le soutien au pouvoir d'achat des ménages. Ensuite, le troisième objectif vise l'assainissement des finances publiques par la maîtrise des déficits et les dettes publiques en contrôlant le niveau de l'endettement public à moyen et long terme pour éviter surtout le cercle vicieux du surendettement et de la hausse des taux d'intérêt. Enfin, le quatrième objectif concerne la cohésion sociale et la redistribution qui consiste à réduire les inégalités sociales.
Monsieur Dida Sabonde, quels sont les instruments de la politique budgétaire?
Il faut savoir que la politique budgétaire a deux grands instruments que sont les recettes publiques d'une part et les dépenses publiques d'autre part. Les recettes publiques, c'est l'argent que l'État perçoit, principalement grâce aux impôts, aux taxes payées par les citoyens et les entreprises. Les dépenses publiques, l'argent que l'État dépense pour les investissements dans les infrastructures, routes, écoles, hôpitaux, etc., les salaires des fonctionnaires, les subventions et les aides sociales.
Y a-t-il une orientation, encore des orientations possibles de la politique budgétaire?
Oui, d'une manière générale, une politique budgétaire peut avoir quatre grandes principales orientations. En titre d'exemple, la première orientation est ce qu'on appelle la politique budgétaire de relance ou encore expansionniste. L'État augmente donc ses dépenses ou baisse les impôts. Le but est de stimuler la consommation, de stimuler l'investissement en période de crise ou de chômage élevé. La deuxième orientation peut être la politique budgétaire de rigueur ou encore appelée d'austérité. On dit aussi une politique budgétaire restrictive. Dans cette orientation, l'État réduit ses dépenses et augmente les impôts. Le but est de freiner une économie en surchauffe pour limiter l'inflation ou de réduire le déficit budgétaire. La troisième orientation est la politique budgétaire sectorielle. Il s'agit là pour un gouvernement de cibler stratégiquement un secteur précis de l'économie et de mettre en place un ensemble d'une politique spécifique destinée à développer le dit secteur. Ce qui est très important, c'est que les résultats attendus d'une politique sectorielle sont censés contribuer à un résultat plus global. Bon, les exemples de domaines d'activité pour lesquels un gouvernement peut mettre en place une politique sectorielle peut être les routes, construction des routes, la défense, la santé, l'eau, le logement, l'agriculture, l'électricité. Enfin, la quatrième orientation est la politique budgétaire de cohésion sociale. C'est le fait qu'un gouvernement décide de réduire les fractures sociales au sein de la population, de stabiliser l'économie et garantir la paix sociale et pourquoi pas la légitimité politique.
En tant qu'observateur de la vie économique et sociale de la RCA, quel jugement portez-vous sur la situation de la politique budgétaire actuelle de la République centrafricaine?
Mes jugements sur la trajectoire budgétaire actuelle de la RCA portent sur quatre principaux actes. Premièrement, j'estime que la RCA subit une dépendance extérieure persistante et un déficit chronique. Le pays fait face également à un déficit sous contrôle, mais réel, puisque la loi de finances affiche un déficit budgétaire projeté d'environ 28 milliards de francs CFA, soit près de moins 1,2% à moins 3,5% du PIB selon les indicateurs EMO de calcul. Deuxièmement, je parlerai des points forts, qui sont des réformes de modernisation engagées, notamment la transition vers le numérique, puisque le gouvernement centrafricain a lancé le plan e-finance publique RCA 2025-2027 visant à digitaliser l'administration fiscale et douanière. Cette mesure permet de limiter les exonérations fiscales exceptionnelles et d'optimiser le recouvrement. Je dirais aussi des objectifs des recettes en baisse. La stratégie actuelle fixe des objectifs ambitieux aux règles financières, impôts et douanes avec des prévisions de hausse de recettes propre de plus de 11%. Le dialogue avec le FMI, les autorités s'efforcent de maintenir le cap des critères quantitatifs adossés à la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, même si des retards de mise en œuvre, notamment sur la transparence du marché des carburants, compliquent la validation fluide des tranches d'aide. Troisièmement, il y a des vulnérabilités majeures marquées par un espace budgétaire asphyxié à travers trois choses. La première chose, l'impact de l'insécurité sur les recettes. Deuxième chose, la faiblesse des investissements sociaux. L'essentiel des ressources disponibles est absorbé par les dépenses de souveraineté, la sécurité, la masse salariale publique et les services de la dette. En conséquence, les secteurs du capital humain, santé, éducation, accès à l'eau potable restent largement sous-financés et dépendants de l'aide humanitaire d'urgence. La troisième chose, c'est l'alerte à long terme. Voyez-vous ? Les partenaires financiers internationaux avertissent régulièrement que sans une accélération majeure des réformes et une couverture des dépenses régaliennes par des ressources purement internes, la validation budgétaire du pays reste menacée à moyen terme.
Monsieur Dida Sabon, l'actualité oblige. Le gouvernement de la République centrafricaine déclare que 81% de son exécution budgétaire a servi à payer les salaires des fonctionnaires. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Alors, lorsque le gouvernement centrafricain annonce que 81% des recettes fiscales et douanières ou de l'exécution budgétaire servent à payer exclusivement les salaires des fonctionnaires, cela signifie que l'État consacre l'essentiel de l'argent qu'il perçoit, impôts, taxes et douanes, qu'au fonctionnement de son administration et à la rémunération de ses agents.
Qu'est-ce que cela implique concrètement, ce que vous venez de dire?
Cela implique que d'une part, des marges de manœuvre très réduites pour le reste des besoins régaliens de l'État. Puisqu'il ne va rester que 19% du budget pour financer les autres besoins vitaux du pays, comme la construction des routes, l'entretien des routes aussi, l'achat des médicaments pour les hôpitaux, le matériel pour les écoles et les investissements publics de développement. Ce n'est pas possible. D'autre part, un risque d'asphyxie financière.
Quelles sont, selon vous, M. Dida Sabon, les pistes de solutions pour améliorer la politique budgétaire de la RCA?
Pour améliorer la politique budgétaire de la RCA, les analyses récentes de la Banque mondiale et du FMI recommandent des axes de réforme structurelle axée sur la mobilisation, la discipline et la transparence. Premier axe de cette réforme, le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures par l'élargissement de l'assiette fiscale pour réduire la dépendance au secteur informel et mieux taxer les secteurs à fort potentiel comme l'exploitation forestière, comme l'exploitation minière. Il y a la digitalisation de l'administration pour moderniser et interconnecter les régies financières, impôts et douanes via des applicatifs numériques pour sécuriser les flux et limiter la corruption et la fraude. La rationalisation de la fiscalité des carburants. Le deuxième axe de réforme, l'amélioration de l'efficacité et de la discipline des dépenses publiques. Le troisième et dernier axe, accroître la transparence et la redevabilité par la publication des audits et des contrats pour rendre accessibles les rapports d'exécution budgétaire et les attributions de marché pour restaurer la confiance des partenaires financiers extérieurs. Enfin, coordonner l'aide extérieure pour aligner les appuis des bailleurs internationaux sur les priorités nationales de développement à moyen terme.
Monsieur Dida Sabon, je vous remercie.
Merci.
Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité d'écoute. Nous avons parlé du rapport publié en juin dernier par le ministère des Finances qui indique que 81% des recettes fiscales et douanières mobilisées sont absorbées par les salaires des fonctionnaires. Notre invité était Marius Nianis, économiste. Cette émission est aussi disponible à la réécoute sur les www.gatundekeluka.org. Merci à Sabrina Larissa Vessianello. Merci également à Aurès Giscard Ngombe qui a assuré la mise en onde. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.